toute la nuit.
Réécoutez vos émissions préférées sur Radio Lac. Le meilleur des réveils présente...
Semaine spéciale rentrée dans le flashback, l'occasion de se souvenir notamment de ces objets qui nous ont marqués durant notre enfance, durant notre scolarité. Et là, c'est un objet absolument mythique, Carole, objet qui nous a accompagnés dans les classes d'école.
Ah bah oui, puis là, c'est un petit voyage dans le temps qu'on vous propose, Fabien, ce matin, direction nos salles de classe d'autrefois, celles où les ordinateurs n'étaient pas encore un rêve, celles où l'odeur de la craie régnait en maîtresse, ça c'est certain. On va parler aujourd'hui des ardoises à craie. Qui se souvient de ces petites planchettes noires qui, bien avant les tablettes numériques, faisaient de nous de véritables écoliers en herbe. Oui, ces ardoises, c'était un petit peu notre cahier réutilisable. Recto, verso, tout y passait. Les lignes maladroites de nos premiers mots, les opérations d'arithmétique qu'on traçait un petit peu avec application.
Il
y avait aussi des petits dessins griffonnés en cachette sur l'ardoise, pourquoi pas, du voisin, de la voisine. Bref, elles étaient en tout cas toujours accompagnées des fameuses craies blanches, fines, fragiles, qu'on utilisait avec précaution pour ne pas les casser, mais aussi d'une éponge qu'on pouvait qualifier de... douteuse.
Bah, disons que l'éponge était très utile, certes, mais comme tout enfant qui se respecte, on ne s'intéressait pas tellement à son entretien. Donc,
c'est un peu ça, ouais.
Voilà, on
Elle
l'utilisait,
avait bien vécu.
Ouais, on l'utilisait pour effacer l'ardoise, bien sûr. Simplement, on ne la nettoyait pas.
C'est ça. Et en plus, on l'humidifiait à peine pour effacer nos erreurs ou c'est notre ça. Dernier chef-d'œuvre. Et du coup, ça laissait parfois une petite traînée blanche disgracieuse sur l'ardoise. Voilà, comme le souvenir de cet effort, l'effort précédent. En tout cas, l'éponge, on la passait de main en main sans trop se poser de questions. C'est vrai que l'hygiène, c'était un petit peu un concept à cette époque.
Oui.
On se posait pas trop de questions. Ces ardoises, eh bien, moi, je trouve qu'elles avaient un certain charme. Celui de la simplicité. C'était le symbole à l'époque de l'apprentissage direct, sans fioriture. Un outil modeste, mais efficace, qui accompagnait chaque élève dans ses premières années d'école. Qui se souvient de l'ardoise à craie, Fabien? Toi, j'espère.
Ah bah, que de bons souvenirs.
Ah ouais.
Alors, moi, j'avais un petit problème. Alors, comme beaucoup de personnes, j'étais vraiment très gêné par le frottement des ongles sur l'ardoise et sur la craie aussi.
Ouais.
Autant j'aimais la craie neuve quand elle était toute douce, tu sais, quand tu la sortais de son étui.
Ouais.
Mais c'est vrai que je supportais pas d'avoir de sentir un peu la craie sur les ongles. Ça je détestais.
C'est vrai. Et moi, j'avais un maître, tu sais, qui, pour faire revenir un petit peu le calme dans la classe, prenait ses ongles et en fait grattait l'ardoise à craie en fait. Et là, je peux t'assurer qu'il n'y avait plus un bruit dans la classe.
Ah ouais.
Bref, et vous, est-ce que ça vous inspire, cette ardoise à craie? Et qu'est-ce que ça vous inspire surtout? 079 98 3000.
Le meilleur de Lac, en replay,
sur la nouvelle application Radio Lac.
Il suffit de demander vos conseils sur Radio Lac.
Et cette semaine, c'est Pierre-Yves Bovigny qui m'accompagne pour Jeudi Jardin. Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Sophie.
Maître d'enseignement à l'EPIA. Alors on est au mois de juin. Hein, c'est votre première chronique du mois de juin et on parle du chanvre.
Ben oui, dimanche passé, nous étions le 1er juin.
Et oui.
Jour où l'on fête discrètement une plante discrète, le cannabis.
Le cannabis.
Le cannabis sativa. Il en existe qu'un de cannabis, c'est celui-là, qu'on l'appelle cannabis généralement ou alors marijuana si on le fume.
Ouais.
Et surtout chanvre, si on en fait une utilisation artisanale ou industrielle. Il faut savoir que c'est une des plantes qui nous a le plus accompagné tout au long de notre évolution. 10 000 ans avant Jésus-Christ, on utilisait déjà le chanvre.
Ah oui.
C'est une des premières plantes domestiquées, ça veut dire adaptées pour les besoins de l'agriculture. Et cette plante a suivi, on a dit, l'évolution de l'homme à tous les niveaux. Les premiers habits ont été faits avec du chanvre,
oui.
Les premiers papiers ont été faits avec du chanvre. Les conquêtes navales qu'on a pu imaginer ont été faites qu'avec du chanvre. Il fallait plusieurs tonnes de chanvre sur un bateau pour faire les cordes et les voilages.
Mmh.
Les populations se louaient cette chanvre. La pharmacopée indienne ou chinoise utilisait du chanvre, une plante totalement intégrée dans notre vie, dans notre société, jusqu'au moment où elle est un peu tombée dans l'oubli pour deux raisons. D'abord parce qu'à partir du 19e siècle, les esclaves ont permis la production de coton industriel de manière très importante, qui a remplacé le chanvre.
Mm-hmm.
Et puis dans les années 30, aux États-Unis, le chanvre a commencé à être assimilé au cannabis
et
récréatif.
Oui.
Si bien qu'on a on a vu cette plante d'un très très mauvais œil. Elle est complètement tombée dans l'oubli jusqu'à, depuis quelques dizaines d'années, où elle revient en force. Parce que
c'est
une plante extraordinaire, le chanvre.
Ouais, ouais.
Une plante qui a besoin extrêmement peu d'eau, qui est résistante à peu près à toutes les maladies et tous les ravageurs, qui peut fixer le carbone de manière bien plus importante que toutes les autres plantes, qui améliore la structure des sols, qui est renouvelable, qui est biodégradable, tout à fait adaptée à nos grands défis actuels climatiques, écologiques. Donc une plante qui recommence à être cultivée très largement. On l'utilise beaucoup dans la construction, par exemple, pour isoler les bâtiments.
Oui, ouais.
On va la faire revenir vraiment dans notre vie de tous les jours. On l'utilise pour les huiles oméga 3,
ah, les choses pleines d'oméga 3.
Donc,
dans les salades, c'est très bon.
Donc une plante qui a commencé avec l'histoire de l'humanité, qui s'est un petit peu éteinte et qui va probablement être aussi notre avenir dans notre humanité.
Quand on passe à côté d'un champ de chanvre, ça. Hein, ça
alors,
sent, hein,
oui, ça sent, mais à ne pas confondre
avec,
le chanvre industriel, le CBD qui est encore autre chose,
encore
et
autre
le
chose.
Cannabis récréatif qui contient, lui, du THC.
Voilà.
Mais dans le fond, c'est qu'une unique plante. C'est le cannabis sativa. C'est son taux THC qui définit son utilisation.
Bien sûr.
Par contre, cette plante qui est très, très fibreuse et qui résiste vraiment, qui est une plante extraordinaire d'un point de vue écologique, revient en force et c'est plutôt une bonne nouvelle pour notre environnement.
Le meilleur de Lac, en replay
sur radiolac.ch.
Le meilleur des réveils présente
le flashback du jour avec un jeu absolument culte.
Ce jeu est apparu dans les années 30 sur l'île d'Hawaï où un jour des gamins se sont mis à taper l'une contre l'autre des capsules de jus de fruits surnommées Pug pour papaye, orange et goyave.
Une folie au cœur des années 90 qui a touché toute la Suisse, les Pug. Oui, tu te souviens, Carole,
ah
de
oui,
ces petits disques en carton. Oui, les petits disques en carton qui nous faisaient tourner la tête et avec lesquels on dévalisait les boutiques parce que ça se collectionnait. On n'en avait jamais assez des Pug.
C'est vrai, hein.
Ouais,
c'est
vous
fou.
Vous
hein.
en souvenez forcément.
Et on faisait des échanges aussi quand on avait des doubles.
Mais oui.
C'est un jeu assez amusant. Avec ces petits ronds de carton qu'on essaye de retourner avec des ronds de plastique qui s'appellent les slammers.
Ça nous fait une occupation pour la récré.
Ça nous donne une occasion de jouer ensemble.
Bien sûr.
Ces jetons colorés que l'on empilait et on lançait avec une pièce spéciale. Je me rappelle plus son nom.
Le kini.
Ouais.
Ça s'appelait. C'était une espèce de gros pog mais en plastique. Beaucoup plus épais.
Et l'idée, c'était de tenter de les faire tomber. Et ouais. C'est devenu un jeu véritablement viral. C'est tout bête. Hein. Franchement, le concept de base, il est quand même sacrément simple.
C'est super bête, ouais, effectivement. Mais pour le coup, ça marchait et ça a fait un fureur.
Mais oui, dès 1994, partout dans le monde, et notamment en Suisse. Mais alors, comment ces petits objets ont-ils envahi nos pauses, nos moments de jeu avec les copains? À l'origine, les Pug proviennent d'Hawaï.
Ah
voilà.
Bon
traverser l'océan. Ils étaient utilisés comme capsules de lait à la base.
D'accord.
Les Pug, le jeu traditionnel hawaïen, a été découvert par un entrepreneur américain qui a décidé de commercialiser ses disques colorés sous une forme ludique. En 1994, le phénomène a traversé l'Atlantique pour déferler en Europe et donc chez nous, en Suisse.
Ça touche déjà les garçons et les filles. De plus, c'est ludique, ça veut dire que les gens jouent. Les jeunes peuvent gagner ou perdre. Il n'y a pas ce phénomène que de collection. Il y a un phénomène de gain, il y a un phénomène de jeu collectif, d'échange.
Bien sûr, il y avait les duels hein, qui devenaient des moments clés lors des pauses à l'école. C'est toute une période. Ça n'a pas duré très longtemps.
Non, c'est vrai que ça n'a pas duré longtemps. Ah ouais. Je pense que si ça a duré 2 ans, c'était le bout du monde. Hein.
Voilà, les Pug qui ont connu un véritable déclin. Tu le disais, tu as eu juste hein,
vrai,
en 1996, ça a commencé sérieusement à perdre en popularité et remplacé bien sûr par de nouvelles tendances. Parce
bien
que
sûr.
C'était ça et il y avait toujours de nouvelles modes. Est-ce que vous vous en souvenez de ces Pug? Est-ce que vous aviez
la collection à la maison?
Est-ce que vous l'avez eu au complet? Je crois que personne n'a réussi à compléter sa collection. Il y en avait trop. Bah ouais.
Ouais.
Racontez-nous en tous les cas vos souvenirs. C'est le flashback du jour. 079 91 8 3000. Ça se passe sur le WhatsApp de Radio Lac.
Toute la nuit,
réécoutez vos émissions préférées sur Radio Lac.
Looks so
Radio Lac Vacances.
Oui, l'été, les vacances, le soleil brille, les vagues murmurent leur va-et-vient et les plages se remplissent de vacanciers en quête de paix, en quête de joie et de rire. Mais derrière cette image idyllique se cache un fléau offaltif. Les crèmes bronzantes. Vous savez, ces onguents magiques censés nous protéger des rayons du soleil tout en nous offrant un teint doré, joli, tout plein, dégagent souvent des odeurs qui peuvent rivaliser avec celles d'un fromage bien affiné. Alors, comment naviguer dans cet océan de senteurs parfois désagréables sans perdre son sens de l'humour et surtout sans perdre son nez? Alors, tout d'abord, il est essentiel de se préparer mentalement. Avant de poser notre serviette sur le sable chaud, prenons un moment pour respirer profondément en nous rappelant que ces odeurs ne sont que temporaires. Ensuite, n'hésitons pas à jouer la carte de la distraction et pour cela un bon livre par exemple ou des écouteurs et notre playlist estivale préférée. On peut même se plonger dans un bon roman d'Antonio Rodgers ou se laisser emporter par les rythmes de la musique. En nous concentrant sur autre chose que les odeurs de crème, nous pourrons profiter pleinement de notre journée à la plage. Et si l'odeur devient trop envahissante, un petit tour dans l'eau salée peut faire des merveilles pour rafraîchir nos sens et nous éloigner des effluves indésirables. Enfin, n'oublions pas que l'humour est notre meilleur allié. En transformant cette expérience en un jeu et la prochaine fois que nous nous retrouverons sur la plage armée de notre crème bronzante, rappelons-nous, l'été est une aventure sensorielle. Avec un petit peu de préparation et de distraction, nous pourrons non seulement survivre aux odeurs de crème bronzante, mais aussi en sortir victorieux, prêts à profiter du soleil et des vagues.
Le meilleur de Lac en replay
sur la nouvelle application Radio Lac.
Maman, maman.
Hello, c'est Kitri Dulo sur Radio Lac. Retrouvez-moi sur Maman Pourquoi, le podcast éducatif et rigolo qui répond à tous les pourquoi.
Pourquoi ?
Et les comment de nos petits curieux.
Comment ?
Maman Pourquoi, c'est tous les mercredis sur vos plateformes préférées, sur le site et l'application Radio Lac.
Le flashback, c'est chaque jour l'occasion de se remémorer quelques bons souvenirs, un événement, une mode, un objet culte des années passées, des décennies passées. Là, on va replonger un petit peu en enfance, hein, semaine spéciale rentrée scolaire, avec un objet, Carole, qui a marqué notre enfance.
Complètement, Fabien. On en avait tous à l'école, forcément. On en avait besoin pour nos travaux. par exemple. Mais c'est un objet qu'on ne traînait pas forcément dans notre trousse tant il était assez imposant, il faut le dire. Cet objet, on s'amusait de temps en temps avec forcément, et puis on pouvait de temps en temps le sniffer un petit peu.
La colle.
Ah oui.
Forcément. Et mais on se rend compte. Non mais on se rend compte aujourd'hui de la bêtise qu'on pouvait avoir enfant de ce sont des produits chimiques.
Hein, cette colle. On l'a tous fait.
C'est dangereux. Mais on l'a toutes et tous fait. Ouais,
la
c'est
fameuse
sûr.
Colle sémantite, bien sûr, ouais. qu'on se trimbalait sur les pupitres de l'école et qui nous servait forcément, et bien à coller nos travaux manuels, nos projets scolaires, mais pas que, parce qu'on pouvait aussi avec créer des bulles. Tu l'as déjà fait, non?
Bah oui,
c'était l'activité populaire avec la colle sémantite. Ça consistait donc à créer des bulles. L'élève déposait un petit peu de colle sur une surface non poreuse, comme un banc ou une table, tout simplement. C'était notre table en l'occurrence. Puis on soufflait doucement dessus avec une paille ou une baguette creuse. La colle formait une fine pellicule qui, en soufflant, gonflait en une bulle. Ces bulles étaient assez résistantes et elles avaient surtout une texture assez caoutchouteuse. Et puis, on l'utilisait aussi pour faire une seconde peau. Tu l'as déjà fait, non?
Comme dans la série télé, là, avec les hommes lézards. Exactement.
Exactement.
Oui.
Tu faisais ça, tu la mettais sur ta peau, tu la laissais sécher un petit peu, et dès qu'elle était sèche, c'est « Regarde, ma peau, elle part !» C'était une horreur.
C'est de la bêtise d'enfant.
Les sculptures improvisées aussi, parfois ça nous arrivait de faire des petites sculptures et puis de laisser sécher partiellement, les jeux de collage aussi. Bref, et tu l'as dit, forcément, la colle, il ne fallait pas s'amuser à l'inhaler parce qu'elle avait une odeur forte et puis ses vapeurs étaient potentiellement nocives. Et pourtant, on l'a tous fait.
Ça fait partie des souvenirs d'enfance et c'est vrai que cette colle, ça amusait beaucoup les enfants, ça nous amusait beaucoup. Il y avait la colle UU aussi en tube.
Oui,
bon, un peu moins drôle.
Il y avait la colle scotch aussi. Bon, ça, c'était plus chez nos voisins français, mais quoi qu'il en soit. La sémantite, c'était pas seulement un outil de travail manuel à l'école, c'était aussi un objet de divertissement créatif pour les élèves suisses, malgré les restrictions et les avertissements des adultes. Ça, forcément, on l'a tous fait.
Bon, vous avez peut-être des souvenirs, peut-être des choses particulières que vous faisiez avec ce tube de colle. Vous étiez peut-être doué pour les sculptures ou pour les bulles,
ou
pour la peau façon V. Là.
Ou alors, vous étiez partisan de dire que le petit crochet qui était au bout du bouchon de la colle sémantite, eh bien, il servait véritablement à quelque chose, alors qu'en fait, pas du tout, c'était juste pour l'étaler la colle, tout simplement.
Voilà, mais ça, c'est des choses qu'on apprend bien plus tard.
Ouais.
Allez-y, vos souvenirs, peut-être vos fous rires aussi, parce que ça vous a peut-être beaucoup amusé, cette colle.
Le meilleur de Lac, en replay
sur radiolac.ch.
Ambition Music.
Lolita.
Touch that love got a bulletproof from day one. That's when we put together, damn strong. Yeah, listen, I'm showing that love, yes, it's number one. Pretty, yes, and then big, heavy taste fly. As long as you stay on my side, everything's fine.
You make me feel right.
sur Radio Lac, même pendant les vacances.
Surtout pendant les vacances, puisqu'on parle de sable, vous savez, ce doux granulé qui se glisse dans nos maillots de bain pour nous démanger à la journée longue, même après de nombreux trempages dans l'eau, et s'invite même, le coquin, dans nos sandwichs jambon fromage basique. Mais saviez-vous qu'il existe environ 200 millions de milliards de grains de sable sur une seule plage? Eh oui, donc la prochaine fois que vous vous asseyez sur votre serviette, pensez à tous ces grains qui ont vu passer des générations et des générations de vacanciers, à moins que ce soit le cadet de vos soucis. Et attention, sachez que tous les sables ne se valent pas, puisque certains sont même plus fins que d'autres, et certains, comme ceux de la plage de Papakolea à Hawaï, sont même verts. C'est magique, non, le sable vert? Cette couleur est due en fait à des minéraux spécifiques et donne un petit air de conte de fées à votre journée à la plage, à moins que ce soit le cadet de vos préoccupations. Et si en prime, vous êtes du genre à collectionner des souvenirs, pourquoi ne pas ramasser un petit pot de sable de chaque plage que vous visitez et dont vous profitez pendant des heures? Vous créez ainsi votre propre musée des sables en hommage à vos escapades estivales, à moins que cela vous passe à 300 000 au-dessus de la tête.
Toute la nuit,
réécoutez vos émissions préférées sur Radio Lac. Fabien et Carole.
Messieurs, écoutez bien ce stéthoscope, cette étude aujourd'hui qui grâce à Carole, vous rendra peut-être plus attirant aux yeux des femmes.
Grâce à moi. En même temps, c'est une étude très sérieuse qui a été réalisée en Californie qui le dit. Alors, c'est vrai qu'en matière de séduction, il n'y a pas de règles. C'est vrai.
Oui.
Y a pas de...
Et heureusement, parce que.
Heureusement, j'ai envie de dire. Sinon, il y en a plus d'un ou plus d'une qui
serait sur le carreau.
Sur la touche, ouais, on est d'accord. Vrai. Et parmi les éléments qui séduisent les femmes qui ont participé à cette enquête, eh bien, il y a quelque chose qui ressort. Attention, donc je vous parle plus précisément de cette fameuse enquête. On parle donc d'une étude qui a été réalisée en Californie et qui a établi que 97% des 28 000 femmes interrogées considéreraient la stabilité financière comme critère important dans le choix de son partenaire.
97%, donc ça veut dire la quasi-totalité.
97%, tu te rends compte, un chiffre extrêmement élevé, hein, tandis que le physique n'est important que pour seulement 50% des participantes à l'enquête. Donc une femme sur deux dit « Ok, oui, le physique, c'est quand même important. » Et alors, une femme sur deux dit « Ah, moi, j'en ai rien à faire. » Et surtout, 97% des 28 000 femmes interrogées dit que la stabilité financière est le critère le plus important pour elles. C'est quand même incroyable.
Donc, pour résumer, il vaut mieux être moche qu'instable financièrement.
Exactement. C'est quand même fou.
Dingue.
C'est quand même dingue. Si t'es beau et que t'es instable financièrement, eh ben, la femme ne sera pas forcément attirée par toi. Trop instable, justement.
Okay.
Parmi les éléments qui séduisent les femmes qui ont participé aussi à l'enquête, il y a la sensation de sécurité qui revient également beaucoup dans les réponses. Par exemple, un homme, un judoka ou un rugbyman ou un boxeur, etc., attirera plus que celui qui fait du tennis de table.
Ok,
voilà,
tu dis ça parce que j'ai fait du tennis de table, évidemment, j'en ai fait quelques années.
Tu as été pongiste,
voilà,
toi, c'est
mais
vrai.
Absolument, c'est oui, j'étais pas mauvais. C'est peut-être d'ailleurs le seul sport pour lequel j'étais un petit peu doué. Quoi.
Oui.
Donc,
voilà. Non, mais ça, c'est pas pareil. Toi, t'as une carrure, t'es grand, etc. Donc, forcément, tu incarnes la sensation de sécurité.
Donc, en fait, c'est ça. Et dans la stabilité financière, c'est en fait le sentiment de sécurité, hein, d'avenir serein qui est important.
La sécurité revient beaucoup, les papas également. Les papas seraient plus attirants que les hommes.
C'est vrai, ça, il paraît. Hein.
C'est quand même fou. Hein. Cette enquête le dit encore, hein, les hommes qui ont des enfants ont plus d'interactions, en tout cas, avec les femmes que ceux qui n'ont pas d'enfants. C'est quand même fou, ça.
Voilà, donc en tous les cas, une étude qui nous en dit long sur ce qui peut marcher, ce qui peut fonctionner auprès des femmes. Après il faut dépasser bien sûr le côté physique, parce
bien
que
évidemment.
si la personne s'arrête tout de suite sur le côté physique, que l'homme soit ou pas stable financièrement, ça finalement elle ne le saura pas.
C'est vrai.
Voilà. Donc,
c'est vrai. On est d'accord.
Ouais, c'est surprenant. 97%, moi je suis surpris quand même par le résultat. Je pensais pas que c'était autant, tu vois.
Oui, c'est fou hein, quand même. Hein. Alors la sécurité, je peux l'entendre.
Ouais.
Moi c'est vrai que ça a toujours été hyper important pour moi, se sentir en sécurité. Mais alors la stabilité financière, j'aurais pas cru. Hein.
Voilà,
97%.
Si énorme. Vous êtes moche et que vous n'avez pas un radis en poche, eh bien alors là, c'est la galère, les amis. Ça va être difficile de pécho cet été. Non, mais c'est vrai.
Mais si vous êtes moche, il y a toujours une option de. Il y a toujours une réversibilité possible pour la stabilité financière.
Voilà, autant vous êtes très moche, mais vous allez peut-être être un peu plus stable financière.
Le meilleur de Lac en replay
sur la nouvelle application Radio Lac.
So come to life.
Sur Radio Lac.
Ça se plaide ou pas ?
Chien nous accompagne chaque mercredi. Ça se plaide ou pas sur Radio Lac ? Bonjour.
Bonjour Sophie.
Je sens que cette chronique pourrait nous attirer quelques commentaires. Mettre en relation médecine et fausseté. Oulala.
Oh là là,
vous
oui,
allez
Sophie.
Trop loin, maître.
Non, non, pas du tout. Même les dieux grecs étaient jugés par l'homme. Les médecins, bien que placés à la droite de l'Olympe, font malgré eux partie de la seconde catégorie.
Ouais, mais les avocats, ils font mieux ou pas ?
En effet, nous sommes à la droite d'Hadès, directement compagnon de Disette de Perséphone.
Très bien.
Une affaire tranchée par le tribunal fédéral en 2023 au sujet de faux certificats médicaux pour dispenser une partie de comparaître à une audience.
Ah, donc médecine et justice.
Vous comprenez toujours très vite. Synopsis, un certificat médical dresse un tableau inexact de l'état de santé de la personne, des mesures à ordonner ou des conclusions à en tirer, ou encore qui passe sous silence des circonstances essentielles et contraires à la vérité. Au plus subjectif de l'infraction présuppose la connaissance du caractère non véridique de ce qui est certifié, ainsi que d'au moins l'une des destinations du certificat médical.
Mais un médecin ne peut pas faire n'importe quoi, juste faire plaisir, c'est ça ?
Non, non, on ne peut pas faire n'importe quoi, et leurs écrits sont très très importants, au point qu'on a une disposition du code pénal, l'article 318, qui définit l'infraction à la peine sanctionnant les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes qui auront dressé un certificat contraire à la vérité, alors qu'il était destiné à être produit à l'autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu'il était de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes. Et la négligence est punissable.
Oh, les pauvres dentistes, ils sont mentionnés ad nominem, c'est ça ? Après les médecins, comme s'ils n'avaient pas fait d'études de médecine, je trouve ça un peu fort.
C'est un peu. Deluxe aurait dit la même chose. Alors, il faut évidemment prendre en compte que le médecin interprète forcément un peu l'état de son patient. Il y a donc une part subjective. Donc, ici, ce n'est pas l'état de santé du patient qui importe, mais l'avis ou le diagnostic du médecin.
D'où tout ce qui se dit derrière ce qu'on appelle les certificats de complaisance.
Et voilà, ce n'est pas aux patients d'endosser cela, mais bien aux médecins d'être regardant à ce sujet et ne pas simplement se draper d'un « j'ai pensé que ». Donc, l'acte doit être intentionnel ou il doit y avoir ce qu'on appelle un dol éventuel.
Dol éventuel, toujours des termes barbares.
C'est magnifique, oui. Ouais. Le dol éventuel, c'est que l'on accepte qu'on puisse faire faux à l'avance et on s'accommode du résultat. L'exemple typique, c'est le conducteur ivre qui tue quelqu'un. Il se met lui-même dans un état d'ivresse et il accepte par conséquence qu'il pourrait tuer quelqu'un. Exemple ici, le médecin a indiqué que sa patiente ne pouvait pas se présenter à une audience très conflictuelle en matière de divorce pour des causes de stress, le stress non couvert par le secret professionnel et médical. La justice a retenu que le motif du stress ne permettait pas de justifier un empêchement de comparaître et encore moins pendant une période déterminée. Admettre le contraire permettrait de paralyser des procédures. Et donc, elle a estimé qu'en ne mentionnant pas dans le certificat ce motif non couvert par le secret médical qui ne justifiait pas l'absence de la comparution, le médecin avait dissimulé une circonstance ou un fait important et avait ainsi donné une fausse image de la réalité, excluant la possibilité pour la justice d'apprécier le motif même de la dispense. Donc, faux certificat, un médecin ne peut se substituer à la justice. Le médecin dit « secret médical ». Or, la procédure a démontré, dans le cas qui nous occupe, qu'il voulait protéger sa patiente, c'est fortement honorable évidemment, du stress supplémentaire et à trois reprises. Il ne peut pas se prévaloir de cette circonstance.
Mais est-ce que vous êtes souvent confronté à ce genre de situation ?
Alors, la question des certificats de complaisance est une vraie question de justice, Sophie. Il y en a pas mal. À vrai dire, il y en a pas mal. Ou en tout cas, on le pressent. Il y a une vraie question sur la complaisance des médecins, même si, encore une fois, le motif probablement est humain et honorable. Mais les certificats de complaisance peuvent créer beaucoup de dégâts et empirer des situations déjà passablement compliquées. N'est-ce pas, Sophie ? Qu'est-ce qu'on répétera encore sans relâche ?
Restons bons et droits.
Merci beaucoup, Sophie.
Merci. Vos coordonnées sont au dos du podcast à réécouter sur radiolac.ch ou application. À la semaine prochaine.
Merci.
Le meilleur de Lac en replay
sur radiolac.ch.
Maman, maman.
Hello, c'est Kitri Dulo sur Radio Lac. Retrouvez-moi sur Maman Pourquoi, le podcast éducatif et rigolo qui répond à tous les pourquoi.
Pourquoi ?
Et les comment de nos petits curieux.
Comment ?
Maman Pourquoi, c'est tous les mercredis sur vos plateformes préférées, sur le site et l'application Radio Lac.
Plenty of room.